Bonsoir à tous, chers amateurs sportifs, auditeurs de VOA Afrique. C'est votre rendez-vous de Sporama pour passer en revue l'actualité sportive dominante du week-end. Aujourd'hui, c'est exclusivement le football en Afrique et en Europe. Les préliminaires allaient du championnat d'Afrique des nations féminines, le comportement des Africains qui évoluent dans les championnats européens. Et pour terminer en beauté, le huitième de finale, retour de la Champions League, Zidane et le Real qui jouent gros contre l'AS Rome demain à Madrid. Eric Manilakiza avec vous, nos consultants sportifs sont également au rendez-vous, sans oublier les auditeurs. Bienvenue. Ah oui, ça chauffe, bien sûr, au rythme du ballon rond. Je vous le disais tantôt, un week-end bien animé en Afrique avec les préliminaires allées du championnat d'Afrique des nations féminin Cameroun 2016. Samedi au stade Modibo Keïta de Bamako, le Mali et le Maroc ont fait un match nul, 0-0. Suivez respectivement les coachs du Maroc et du Mali, Abidou Ben Aïssa et Oumar Guendo.
Un match pour les Marocains dans ces conditions, dans les conditions de terrain et les conditions de climat, je pense que c'est une victoire. Parce qu'on sort d'une saison hivernale au Maroc, on est tombé sur 43 degrés, c'est pas facile. Bon, on a essayé de gérer le rythme, de gérer nos capacités, nos efforts pendant les 90 minutes, vu la grandeur du stade, parce que c'est un stade qui est très grand et très large. On n'a même pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Mais je pense qu'au Maroc, Inch'Allah, ça va être pas facile pour les Maliens, ce peut même pour nous, mais on va faire de notre mieux pour gagner, Inch'Allah.
Les jeunes, elles ont confondu vitesse et précipitation. Elle avait envie de marquer coup et coup. Vraiment, ça n'a pas marché. La ligne offensive, ça a échoué ce soir. Donc, on va essayer de travailler devant le but pour qu'on puisse marcher à l'extérieur. C'est le football. Le football, ce n'est pas un truc égal à deux souvent. Il y a tout. Donc, là-bas aussi, on peut jouer. Même si on marque un but à l'extérieur, ça compte beaucoup. Donc, ça peut nous apporter beaucoup. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est travailler devant le but pour donner aux joueuses l'envie de marquer pour qu'elles puissent marquer devant. Parce que ce sont les jeunes. Il y a deux anciennes seulement là-dedans. L'équipe arabe, c'est une équipe très très solide, très très en jambes. On a vu l'équipe arabe en jambes plus que l'équipe malienne, parce que ça se comprend aussi. L'équipe marocaine a fait 7 matchs amicaux internationaux, alors que nous, on a trouvé 2 matchs amicaux internationaux. L'équipe marocaine, elle joue ensemble depuis 2008. Donc il y a 3 joueuses, 4 joueuses nouvelles seulement. Alors que nous, on a rajeuni l'équipe, il y a 2 anciennes seulement.
Immédiatement, on enchaîne avec le Sénégal qui a battu la Guinée sur le score d'un but à 0 samedi à Dakar, n'est-ce pas, Amédine?
Le Sénégal a bien entamé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Cameroun en 2016. Les Lions se sont imposés devant l'équipe nationale de la Guinée sur le score d'un but à 0 samedi dernier au stade Demba Diop. L'unique but de la partie est l'œuvre de Binta Diakaté, un but marqué à la 4e minute. Il faut dire que malgré ce but matinal, Ourai Diène et ses coéquipières n'ont pas réussi à aggraver la marque devant une courageuse formation guinéenne. À défaut de prendre une sérieuse option pour la qualification, le Sénégal va se contenter du strict minimum. Mais le coach du Sénégal, Mamoussa Cissé, se dit satisfait de ce résultat. Car il fallait gagner et le Sénégal a gagné.
Il nous fallait gagner ce soir, nous avons gagné. On a les 3 points et on va faire le match de tour. De toutes les façons, quel que puisse être le résultat ici à Dakar, il faut aller chercher la qualification là-bas. Dans le contenu, nous avons fait un bon match. Nous avons tenu le ballon, nous avons joué, nous avons pu marquer. Nous aurions pu marquer d'autres buts. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais ce que je retiens d'abord, c'est une victoire. Après 2 ans, on n'a pas gagné ici au Sénégal, on gagne aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas rien. Il faudrait qu'on voit les bonnes choses d'abord et après on verra les autres choses. On a encore 15 jours pour se préparer pour le match de tour. Et je félicite les filles pour ce match courageux parce qu'elles sont très jeunes. C'est une équipe en reconstruction. Elles ont fait un match héroïque ce soir contre la Guinée. Et Mais non, le reste sera en Guinée dans 15 jours.
Du côté guinéen aussi, le résultat reste positif car le football féminin était inexistant dans ce pays, d'après l'entraîneur Cécile Benjamin qui promet une surprise lors de la seconde manche.
Maintenant, j'ai vu l'équipe adverse. Je ne me cache pas à vous dire, on n'a pas de championnat chez nous. Hein. Et voyez les filles, ça c'est notre première sortie avec des nouvelles figures. Le football féminin chez nous est enterré. Donc, on est en train de déterrer maintenant et aller en avant. Donc, et si on fait une défaite comme ça, 1-0 à Dakar, je dirais, à Conakry, on peut faire de l'espoir. Donc, je suis sûr et certain, il y aura une surprise à Conakry. Il faut reconnaître que nous sommes rentrés ici avant-hier. Hein. Donc, l'équipe n'était pas à l'internat à Conakry. Les filles étaient chez elles, donc elles quittent chez elles et viennent à l'entraînement. Donc il y avait une motivation. Hein. Donc les filles, elles se sont données. Donc elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Et donc il faut les comprendre. Peut-être au retour, l'État guinéen va se demander, va se poser la question pourquoi on n'avait pas pris ces filles-là en charge.
Après ce match aller, sanctionné par une courte et précieuse victoire du Sénégal, les deux formations vont se retrouver dans la capitale guinéenne dans 15 jours. Et le vainqueur de cette double confrontation ira à l'assaut du Nigeria, tenant du titre et 8 fois champion d'Afrique. Amédine Sy, Dakar, VO Afrique.
Voilà le compte-rendu de quelques matchs clés du week-end. Salif, apparemment les supporters y trouvent du goût dans cette compétition.
Oui, justement, il faut dire que le football féminin en Afrique est en train donc de renaître de ses centres, hein, parce que c'est une catégorie donc qui était délaissée dans beaucoup de pays africains, en dehors donc du Nigeria ou du Ghana, qui sont les leaders actuellement sur le plan africain en matière donc de football féminin. Alors, vous voyez un peu que si maliens, marocaines ou maliennes, marocaines ou encore sénégalaises et guinéennes s'affrontent aujourd'hui avec des scores serrés, ça peut dire que le football féminin également, en ce qui le concerne, est en train de monter en puissance. Et aujourd'hui, avec les difficultés, par exemple, que la Guinée-Conakry a, parce que c'est un football féminin qui était quasiment inexistant, aujourd'hui, les Guinéennes arrivent à tenir tête face à des formations comme le Sénégal, qui n'est pas, en tout cas, un moindre pays en matière de football féminin. Je pense on peut dire que le football féminin est en train de repartir.
Merci, merci. Jude, votre commentaire, une minute.
Le football féminin est en plein progrès, effectivement, et qu'il ne faut pas que les organisateurs de cette compétition, surtout les responsables nationaux, oublient que c'est un football qui a surtout besoin de formation et de contacts réguliers à l'extérieur avec des footballs un peu plus développés.
Mmh. Amédine, en donnant ce compte-rendu à Sénégal-Guinée, vous étiez apparemment très passionné.
Ah oui, je suis un passionné de football. Je vous le cache pas, j'ai été très impressionné, hein, parce que le niveau que j'ai vu samedi au Stade de Médiopo, car la confrontation entre Sénégalais et Guinéens a été de haute facture, hein, puisque bon, le Sénégal en football féminin, c'est vrai, c'est pas mal, hein, le football féminin au Sénégal, ça progresse. On a même des joueurs exploités au niveau des championnats européens, mais pour ce match, on ne s'est pas fait de des joueurs. Mais pour la rencontre de samedi, les Guinéens ont tenu la drague haute aux Sénégalais, parce que le Sénégal a souffert, hein, avant de remporter ce match. D'ailleurs, c'est la première victoire du Sénégal depuis 10 ans, car le dernier succès du Sénégal remonte en 2006. Ironique du sort, c'est que ça, à cette même équipe de la Guinée que le Sénégal avait battu par 5-1, et 10 ans après, c'est une équipe que vous avez attribuée par 5-1, vous avez du mal à s'imposer contre cette équipe. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait au niveau de tous les pays. Et si vous entendez ce que l'entraîneur Cécile Benjamin de la Guinée a déclaré, ça c'est sûr, le football féminin est inexistant en Guinée. Les filles ne se sont pas regroupées malgré tout ça. Elles sont venues à Dakar. Elles ont tenu tête à ces Sénégalaises, chapeau à ces Guinéennes. Mais je veux dire que pour le Sénégal, il faut sortir le grand jeu pour pouvoir décrocher la qualification avant d'atteindre le second tour. Le second tour, je l'ai dit tantôt, le vainqueur de confrontation aura en face le Nigeria, qui est un très, très, très gros morceau, parce que le Nigeria a été 8 fois champion d'Afrique, d'ailleurs sur le terrain d'équipe. Donc, ce n'est pas demi la veille que des équipes comme le Sénégal et la Guinée vont quand même éliminer cette équipe la demi-finale, mais l'essentiel c'est de participer, l'essentiel c'est de jouer, parce que la FIFA aussi met beaucoup d'argent dans ce football féminin pour le permettre quand même de se développer. J'ai dit chapeau au Sénégal, chapeau également à la Guinée.
Merci Amédine. Christophe Aboujumbura, est-ce que vous avez eu à regarder quelques matchs? Qu'est-ce qui se passe dans la région? Allô Christophe? Christophe, il n'est pas là. On va essayer de le rejoindre. On parlait donc de ces matchs comptant pour les préliminaires allées du championnat de la Coupe des Nations catégorie féminine. On a Alphonse Mbouaki, notre auditeur à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Oui, votre commentaire. Vous aimez sans doute le football féminin.
En tout cas, on n'a pas suivi ça, mais quand j'écoute les résultats réalisés par le Sénégal contre la Guinée, en tout cas, je suis très fier et je regrette mon pays. Mon pays est encore en train, hein. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Mon pays, la RDC, il n'y a pas d'engouement comme dans le cas du football masculin. Vraiment, j'aurais voulu que le Congo, la RDC soit aussi soit vraiment en première place comme le Nigeria. Quand j'entends le bilan du Nigeria, vraiment, c'est fermé, vraiment. J'appuie cette équipe et j'ai pris que mon pays aussi puisse s'organiser, avance au niveau du football féminin, comme le cas du Nigeria. Aussi bien que les Maroc. Le Maroc aussi a une grande équipe féminine. Mais on n'a pas suivi, on n'a pas suivi ce match ici. Personnellement, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi tous ces matchs.
Gardez la ligne. On marque une petite pause avant de parler de ces Africains qui évoluent en Europe. Voilà le petit tam-tam qu'on joue. Roger Mundou est à l'écoute, sans doute, pour suivre Sporama et adorer cette belle mélodie. On retrouve Christophe à Bujumbura. On enchaîne avec, avant de parler de ce match de demain entre l'AS Rome et le Real de Madrid. Pour la Champions League, on va d'abord jeter un regard sur le comportement de nos ambassadeurs en Europe. Il s'agit des joueurs africains qui évoluent en Europe. On va commencer par l'Allemagne. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet face au Bayern de Munich. Christophe, est-ce que vous avez suivi ce match?
J'ai regardé ce match avec beaucoup d'intérêt. Et Aubameyang garde toujours la même force. Il est attaquant. Il n'a pas marqué pour cette soirée-là. Mais toujours est-il que c'est un grand joueur, un grand attaquant africain, comme l'image d'autres joueurs africains qui évolue en Europe.
En Angleterre, le magicien algérien de Leicester, Riyad Mahrez, a usé de sa baguette magique, n'est-ce pas? Il a inscrit son 15e but de la saison d'une frappe qui a filé sous la barre entre les jambes tendues de deux défenseurs. On a vu aussi l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré qui a justifié la confiance de Chelsea en ouvrant le score, et Yaya Touré, le relayeur ivoirien de Manchester City, qui y a converti en caviar de l'Espagnol Silva pour ouvrir le score en plaçant son pied en opposition. Christophe.
Mahrez, il est grand, il est jeune et il essaie d'être l'attaquant, je ne dirais pas l'attaquant africain, l'attaquant en termes de but, mais il y a d'autres Africains qui sont aussi talentueux que lui. Et le football africain, même en Afrique, pourrait être le meilleur si on avait toujours ces attaquants. Mais les meilleurs attaquants, pas toujours dans des contrées assez lointaines. Mais Mahrez, c'est un modèle comme Yaya Touré, comme les autres. Donc, au niveau des talents, on en a. Il y a moyen de faire plus.
Mm-hmm. Et en Espagne, le milieu défensif sénégalais Alfred Ndiaye a mené le Betis Séville à une précieuse victoire. Et le week-end, on a vu le gardien camerounais Carlos Kameni qui s'est blessé. Samedi, il joue pour Malaga et c'était le match contre le Deportivo La Corogne. En France, l'Algérien de Lyon, Rachid Ghezzad, a été étincelant contre Guingamp, vous l'avez vu. Le Malien Cheikh Diabaté a marqué son 7e but de la saison sur pénalty. Et le Bordelais, c'est Mohamed Larbi, l'international tunisien, qui a égalisé. Et en Italie, toujours Christophe pour réagir en même temps. On a vu l'Égyptien de la AS Rome, Mohamed Salah, qui est en très grande forme actuellement. Il faut le remarquer, avec un doublé, une passe décisive. Et le Gabonais Mario Lemina, qui a marqué un but magnifique. Et le Ghanéen Alfred Donka, qui a aussi, lui aussi, marqué un but magnifique. Christophe, un petit commentaire de 30 secondes sur ses talents.
Vous n'avez pas parlé de Dembélé qui joue en France et qui a 18 ans, qui demain peut être très grand au niveau de la Coupe qui va de la Coupe d'Europe qui va avoir lieu en France. Donc il y a d'autres talents, mais toujours est-il que ces talents ne sont pas suivis comme il le faut. Mais heureusement que ces talents éclatent en Europe. En Afrique, il y a beaucoup de talents qu'il faut toujours aider.
Mmh. Alphonse Mbouaké, avant de vous laisser partir, très rapidement, un petit commentaire sur ces Africains qui évoluent en Europe. Vous avez commenté sur notre page Facebook.
En tout cas, j'ai été beaucoup stupéfait par le comportement d'Ousmane Dembélé en France. Il a réalisé un triplé, hein, pour le Stade Rennais. Donc vraiment, c'est un joueur qui promet sur le jeu qu'un peu, je vous regrette le déficit de vie que Pierre-Emerick Aubameyang de Borussia Dortmund, qui n'a pas marqué contre le Bayern, alors que c'est un joueur vraiment qui fait trembler le filet. Donc, je pense qu'à propos d'Ousmane Dembélé, en tout cas, c'est un joueur de l'avenir. Hein. Il est encore très jeune. Alors, en tout cas, vraiment, il a un parcours, il promet. Voilà ce que j'ai
merci.
À commenter sur.
Merci Alphonse. Merci Alphonse. Continuez à nous suivre à Kinshasa sur notre bande FM. Et Jules, vous avez suivi ces talents évoluant en Europe.
Oui, bien sûr. C'est une nouvelle génération qui arrive et qui commence à se confirmer après les semi-retraites de Drogba, Eto'o, Etienne et même Adebayor, dont je crois qui avait porté la barre très haut. Et donc, nous les suivons attentivement et ils commencent, pour ainsi dire, à éclore et à montrer qu'on continuera à tutoyer, bien sûr, les plus grandes stars internationales.
Mmh. Amédine, lorsque vous observez ces talents et que vous les comparez à d'autres talents que nous avons connus dans le temps. Il y a les George Weah, les Abedi Pelé, il y en a beaucoup, hein, Rabah Madjer et d'autres. Quelle est votre analyse?
Merci Jules. Je suis à la fois ravi et séduit par ces Africains qu'on appelle les artificiers africains des championnats européens. Comme vous l'avez dit, ce sont nos ambassadeurs et charité bien honorée commence par soi-même. Ensuite, Alfred Ndiaye qui a marqué son but avec son club de Kissimi, vous avez émis quand même envie de dire que Mambiram Diouf, l'attaquant de Sofsiki, il a sauvé quand même les Porteurs qui ont arraché un nul face à Kepi. Il a été buteur. Mambiram Diouf qui n'avait plus marqué depuis 6 mois, qui a renoué avec le but. Il y a également Gafro Sakho qui revient de blessure. Gafro Sakho de West Ham qui a marqué un but. Il a permis à son équipe de, d'égaliser à deux buts partout avant d'offrir le troisième but aux Français. Donc les Africains sont en train quand même de survoler beaucoup de championnats. Vous avez également parlé de Cheikh Diabaté, le Malien, le long attaquant malien, mais il est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Tenez-vous bien, Cheikh Diabaté réalise une deuxième partie de saison tout à fait phénoménale, parce que l'attaquant a déjà marqué plus de buts devant les Ivoiriens tous, parce qu'il a marqué 7 buts sur 8 derniers tirs cadrés. Chapeau à l'attaquant malien. Il est en train de rivaliser avec les grands attaquants d'Europe. Les Africains sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des ambassadeurs qui sont en train...
Qui honorent l'Afrique.
De le satisfaire au niveau du vieux continent.
Salif Kabore, vous avez suivi des matchs en Europe.
Oui, justement, j'ai suivi de bout en bout certains matchs, hein, mais il faut dire quand même que c'est une nouvelle génération qui est en train donc de pousser. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur pour ces jeunes footballeurs africains en Europe, ce sont les éliminatoires de la CAN 2017. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une vieille génération qui est en train de s'éteindre. Et aujourd'hui, les sélectionneurs africains comptent beaucoup sur cette nouvelle génération. Et vous voyez, si on prend l'exemple sur le cas de Bertrand Traoré, qui, pour la deuxième fois, donc, a fait sensation avec Chelsea dans le cadre donc, du championnat. Vous voyez, et alors qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on regarde un peu dans l'équipe nationale, les joueurs sont un peu vieillissants. Donc, c'est une opportunité un peu qui se présente aux jeunes joueurs sur le plan européen, donc de s'affirmer parce qu'ils sont bien regardés aujourd'hui par les sélectionneurs nationaux qui cherchent justement des oiseaux rares pour pouvoir relever un certain nombre de défis. Donc, il y a cette perspective-là et aussi, ils veulent confirmer tout le bien qu'on dit d'eux aussi, pouvoir maintenir, sur le progresser donc, dans leur club respectif. Et il y a beaucoup même de joueurs qui cherchent aussi à monter en puissance vers d'autres pays. Donc, ce sont les enjeux majeurs qui se trouvent aujourd'hui à ces joueurs africains. Donc, ils sont obligés vraiment de sortir de l'ornière pour pouvoir effectivement donc avancer et se faire beaucoup remarquer.
Gardez l'écoute. Et tout à l'heure, après cette pause, on parle du Real de l'AS Roma qui joue demain. When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil. Oui, nous nous promenons d'abord à N'Djamena pour recevoir cet auditeur. Bonsoir, Christian.
Ouais, bonsoir.
Oui, très rapidement, votre commentaire, 30 secondes.
Oui, par rapport à...
À tout ce que vous voulez, hein. Nos Africains qui évoluent en Europe ou ces matchs féminins sur le continent africain ou ce match de demain entre le Real et l'AS Roma.
Oui, moi, par rapport aux équipes féminines qui évoluent, j'ai une question à poser.
Oui, vas-y.
Moi, je voudrais savoir lequel, dans ces équipes-là, parmi lesquelles qui a remporté plus de trophées, et qui est le meilleur buteur, quoi.
Ok. On aura des réponses tout à l'heure avec Amédine. Amédine, vous avez une réponse à notre auditeur.
Oui, c'est quoi la question?
Oui, quelle est l'équipe qui a déjà remporté le plus de trophées et quel est le joueur qui a marqué le plus de buts?
Concernant la Ligue des Champions.
Oui, je pense que c'est Cristiano Ronaldo qui bat le record des buts.
Oui, pour la Ligue des Champions, c'est le Real, parce que la Ligue des Champions, ça date des années 60. Ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Avant, quand même, il y a eu cette révolution où on a créé la Ligue des Champions. Des
oui, on enchaîne directement. Madrid, comme, oui, à Médine.
Ils ont dominé, surtout durant les années 70, avec le Bayern de Beckenberg, tout ça. Et puis, le Real Madrid de Stefano, c'est pour cela.
Amédine.
Les dernières années, depuis les années 80.
Amédine.
Des équipes comme le FC Barcelone.
Amédine, il nous reste très peu de temps. On va rebondir sur ce match de demain. Zidane et le Real qui jouent gros contre l'AS Rome. Victorieux 2-0 en Italie, le Real a déjà fait le plus dur et n'aura plus qu'à gérer son avance à Santiago Bernabéu avant de vivre sa première européenne à domicile à la tête des Merengues. Zinedine Zidane a toutefois mis en garde son équipe contre tout relâchement, évoquant un grand rendez-vous et un match très important. 20 secondes, Amédine, votre pronostic?
Ah non, le Real a déjà fait la moitié du chemin, s'est posé à l'étranger sur le score de 2-0. C'est presque une qualification. Maintenant, en football, rien n'est sûr. Attendons de voir, mais le Real va se qualifier.
Merci, Jules, 20 secondes.
Oui, le Real a bien sûr pris une marge importante, mais il doit se souvenir d'il y a deux ans où Schalke avait été battu chez lui, mais a failli se qualifier à Madrid et sur un but vraiment chanceux en fin de rencontre que le Real a inversé la vapeur.
Salif, 20 secondes toujours.
Oui, le football n'est pas mathématique, mais je vois très mal l'AS Rome venir battre le Real Madrid à Bernabéu. Je crois que le Real Madrid va assurer.
Et surtout Cristiano Ronaldo qui est en pleine forme. Christophe,
surtout Cristiano Ronaldo.
Oui, Christophe à Bujumbura, on termine par vous. Votre pronostic, quelle est l'erreur à ne pas commettre demain?
Que le meilleur gagne. Je crois que le football, c'est 90 minutes. S'il y a des prolongations, demain après-demain, je crois que demain, le Real a plus de chances, mais le football, ça roule. Et on ne sait pas qui va marquer.
Merci. Il y a Pep qui a dit que Zinedine Zidane sera l'un des grands entraîneurs dans le monde. Espérons qu'on va le voir. Merci à vous tous pour votre contribution. Merci à Georges, à la cabine des sons. Eric Manilakiza vous retrouve mardi prochain. Au revoir.